Seigneur, nous voulons te chanter, nous voulons te célébrer, et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous te remercions de nous avoir invités pour commencer cette semaine devant toi, devant ta parole. Seigneur, merci de prendre en main ces instants, de les conduire, de les diriger, Seigneur, et que voilà, nous puissions t'apporter l'adoration qui t'est due. Bénis, Seigneur, ceux qui apporteront ta parole également, qui... Que cette parole puisse nous parler, nous instruire, nous faire du bien. Te remettons ce culte, Seigneur, qu'il soit vraiment conduit par toi. Amen.
Nous allons partager le repas du Seigneur et je vous invite à prendre 1 Corinthiens 11, au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi « Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Comme d'habitude, je dirais, il nous est demandé de nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous et nous allons le faire en prenant le pain et la coupe. Et pour assurer cette demande qui nous est faite, je voudrais vous poser une question. Êtes-vous bien réveillé? Sommes-nous tous bien réveillés quand nous allons partager le repas du Seigneur? A priori, oui. Personne ne dort. Nous ne sommes arrivés jusque-là sans encombre, du moins, j'espère. Notre conscience aussi est bien réveillée. Nous savons bien que nous sommes là, au culte et comme tous les dimanches. Mais notre âme est-elle éveillée? Alors si je vous pose cette question, c'est parce que nous avons tous chanté il y a quelques dimanches, et nous venons de le refaire maintenant, le cantique 62. Et comme il est bon de chanter, mais aussi de penser à ce que nous chantons, le Seigneur a mis cette phrase dans nos bouches, et dans mon esprit en particulier, c'est ce qui a retenu mon attention, je vous cite, « Éveille-toi mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus, Emmanuel. » Et en plus, c'est un ordre. Peut-être est-ce nécessaire d'éveiller nos âmes ce matin? En d'autres termes, ressentons-nous le besoin de remercier, d'adorer, de bénir notre Sauveur en venant ici? Peut-être n'est-ce pas évident pour tous, car plusieurs phénomènes nous guettent. Le premier, je pense, c'est l'habitude, qui est un premier piège. Ou bien, la semaine passée ou les heures qui viennent de passer ou celles qui sont devant nous sont peut-être un obstacle à bénir et adorer le Seigneur. Ou peut-être c'est le contraire, notre âme est empressée de le remercier. C'est ce qui est souhaitable. Si c'est un besoin d'éveiller nos âmes, demandons cela au Seigneur maintenant. Jacques dit, un verset que j'apprécie beaucoup, si quelqu'un a besoin, qu'il le demande au Seigneur, qui nous donne à tous, simplement et sans reproche. Ce moment, maintenant, qui précède le repas du Seigneur, est fait pour cela, pour nous préparer ensemble, mais aussi chacun individuellement, à bénir le Sauveur de tout notre cœur. Je ne parle pas ici d'émotions ou de manifestations festives, mais d'une réelle compassion que nos âmes doivent produire en faveur de Jésus, celui qui nous a sauvés, le Christ. Alors nous allons rappeler le souvenir de notre Sauveur pour éveiller nos âmes et les amener à la louange simple, mais à la louange sincère que le Seigneur attend de nos cœurs. En continuant à puiser dans ce cantique, le cantique 62, on voit que c'est un cantique qui glorifie le Seigneur qui est maintenant sur son trône. Mais il est dit aussi dans ce cantique, avant de trouver ce trône de gloire, le Seigneur nous a dit dans ce cantique, il a eu la croix pour trône, il a eu l'épine pour couronne. C'est dans la troisième strophe. Alors on va relire les textes de Matthieu 27 qui nous précisent cette situation de couronne d'épines. Matthieu 27 au verset 27. Matthieu 27, 27, on lira jusqu'au verset 43. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils s'assemblèrent autour de lui, toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils lui forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le regardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. » Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Ils ont posé cette couronne d'épines par haine pour mieux se moquer, pour mieux le voir souffrir. Quelle force de haine. Pensons et considérons et reconsidérons encore ce matin qu'il a été donc frappé, blessé, battu, fouetté, humilié de la part de son peuple. Qu'il a eu de terribles angoisses jusqu'à sa sueur qui était comme des grumeaux de sang. Songeons qu'il a subi le même traitement que les malfaiteurs, les brigands, c'est-à-dire cloué sur une croix. Ça, c'était pour le Seigneur, c'est la part qu'il a accomplie pour nous, selon la volonté du Père. Et nous ? Nous n'aurions pas fait mieux que tous ceux qui l'ont condamné. Nous étions de leur nombre et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Estimons aussi que si nous n'avions pas eu la grâce de la connaissance de l'œuvre du Seigneur, nous serions errants, sans but, sans repère, comme des brebis perdues dans ce monde. Pour tout ce monde qui se perd, pour l'ensemble des péchés des hommes, l'Éternel a frappé son Fils pour que nous ayons la vie. Souvenons-nous aussi, comme un exemple, qu'il a été parfait dans le chemin de la croix, en ne cherchant pas à se défendre, sans ouvrir la bouche, mais obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Quelle source d'inspiration pour nous, pour nos relations, dans nos vies. Mon âme, éveille-toi, car il a payé ce que nous méritions, parce que Dieu a horreur du péché et de nos péchés. Soyons conscients, sans jamais en douter, que nous étions morts par nos offenses et par notre nature. Que la colère de Dieu demeure sur celui qui n'avoue pas son péché, et qui ne reconnaît pas son état. Mais éveille-toi aussi, mon âme, et rends-toi compte de la grâce dont tu es bénéficiaire. C'est par la grâce que vous êtes sauvé, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Considérons au plus profond de notre âme, de nous-mêmes, l'avantage que nous avons sur les non-croyants, notre position de racheté pour l'éternité par les souffrances du Fils de Dieu. Rendons-nous compte que nous sommes son enfant, qu'il a payé le prix et qu'il attend de toi maintenant l'obéissance sans partage. Il nous dit ce matin, comme il disait aux disciples, « Regarde mes mains et mes pieds et ne sois pas incrédule, mais crois et bénis. » Il nous dit aussi, « Ton cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de toi pour ce que je viens de mettre dans tes yeux ? le cadeau que je t'ai offert gratuitement. Le Seigneur s'adresse encore à nous et il nous dit : Je suis venu te dire ce matin, la paix soit avec toi. J'ai payé ta dette, tu es mon enfant. Partage ce souvenir du pain de la coupe jusqu'à ce que je revienne. Alors nous pourrions entonner tous ensemble ces souhaits, dire comme Thomas, tout simplement, comme ce que l'a dit Thomas, tout simplement, sans justification aucune, mon Seigneur et mon Dieu. Alors que nos âmes soient éveillées ce matin pour adorer, pour bénir et acclamer Jésus Emmanuel. Et puis pour finir, je voudrais qu'on lise ensemble le psaume 111. Psaume 111, louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel, miséricordieux et compatissant, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison sainte. Sa gloire subsiste à jamais. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour les paroles que tu nous donnes encore ce matin. Nous voulons, Seigneur, réveiller nos âmes pour t'adorer, pour te louer, parce que tu as fait ce qui est de plus important dans nos vies, c'est-à-dire l'espérance, Seigneur, de te retrouver et le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, d'avoir remis ça devant nos yeux, et tes œuvres sont merveilleuses, et nous te remercions. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
On lira dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Hébreux 11. On lira les versets 24 à 29. Il s'agit de Moïse, donc, de tous ces personnages de la foi qui a été parlé. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Voilà résumé en fait, en quelques versets, toute l'histoire extraordinaire de Moïse et du peuple qui ont pu être libérés de l'Égypte. Et c'est par la foi. Alors on voit que dès le départ, un jour dans le cœur de Moïse, il y a eu une décision qu'il a prise. Cette décision, elle a été claire. Il avait une position exceptionnelle, on le sait bien, puisqu'il devait être le numéro 2, on va dire comme ça, de l'Égypte après Pharaon. Et puis il a pris la décision de refuser. Il a refusé donc d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'était sa première décision. Et cette première décision était motivée par la deuxième, c'est qu'il avait vu le peuple de Dieu et il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Déjà, quelle clarté dans son cœur pour voir ces choses. Parce qu'en voyant ces choses, on doit être attiré par le fait de devoir continuer tout en ménageant quelques éléments spirituels. Non, il a fait un choix très très clair, Moïse. Et on voit tout le parcours qu'il a fait. C'est magnifique. Et puis on pourrait s'arrêter là et dire que le message est terminé. Mais ce n'est pas terminé, ça commence. Et nous avons vu précédemment, la semaine dernière, l'histoire de Joseph. Et On avait vu que Dieu avait un plan précis pour Joseph dans la vision qui lui avait été donnée. Ce plan était spirituel, quelque sorte, pour ramener le peuple d'Israël à Dieu, puisqu'il était dans le désordre. Mais rappelons-nous, il avait fallu que Joseph passe par des épreuves très difficiles qui représentaient l'œuvre de la croix pour transformer complètement Joseph avant qu'il soit apte à pouvoir apporter ce qu'il devait apporter à son peuple. Et ici, dans l'exemple de Moïse, le Seigneur veut d'abord nous révéler, comme c'était pour Joseph, la fonction qu'il a remplie, Moïse donc, qui est une chose précise qu'il a représentée dans le plan de Dieu pour son peuple. Et cette chose, c'est ceci. Pour Moïse, le terme qui s'attache à lui de la part de Dieu, Moïse, le serviteur de l'Éternel. Et ailleurs, Moïse, mon serviteur. Cette parole apparaît plusieurs fois aussi dans le Nouveau Testament. Et on va voir comment s'est passé, déroulé cette fonction du serviteur de l'Éternel et surtout comment la croix, comme pour Joseph, a validé en quelque sorte cette fonction de serviteur. Le peuple élu de Dieu est captif en Égypte, ce qui représente bien sûr, parce que la parole est faite pour nous enseigner à nous maintenant ici, ce qui représente dans le monde le fait que l'Église de Jésus-Christ, bien souvent, est aussi captive, et peut-être que chacun de nous, et moi le premier, des éléments du monde, au lieu d'avoir une soumission totale au Seigneur. Et Moïse reçoit cette révélation du pays de Canaan, où il doit conduire le peuple en le délivrant de l'Égypte. Et l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, qu'il devait dire à Pharaon, était ceci, c'est Exode 4, 22-23, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, mon premier-né, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Donc l'Éternel a donné un ordre à Moïse, en quelque sorte, pour qu'il l'exécute. Et Moïse est totalement adhérent à la pensée de Dieu. À cet ordre, il va l'exécuter, cet ordre. Mais il va l'exécuter avec son idée et avec sa force physique, qui n'était pas moindre. On sait que c'était un gaillard qui, après, était aussi fort à 80 ans qu'à 40 ans. Alors, on va voir dans Exode 2, on va voir ce parcours de Moïse pour obéir à l'Éternel. Il a commencé par sa façon à lui. On connaît bien l'histoire, on passe dans Exode 2. Et on va lire les versets 11 à 22. « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi, chef et juge, sur nous ?» « Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et dit à ses filles « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Guershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Ça a été assez rapide. Cette histoire. Bon, il a tué l'Égyptien, et là, il a vu qu'il allait mourir, Pharaon allait le faire mourir, donc il part, et il arrive donc dans ce pays, à Madian, le sacrificateur. Il fait déguerpir rapidement aussi ceux qui embêtaient les jeunes dames, toujours avec sa propre force, et le voilà dans sa nouvelle condition. Il ne sera plus numéro 2 d'Égypte, il sera wanted par Pharaon pour le tuer, et il arrive à Madian, chez le sacrificateur, où il trouve son épouse, les choses vont assez vite, et un enfant. Donc, cette fois, il va être là, tout à fait différemment de ce qu'il pensait. Tout change, tout est bouleversé, et il va être là pendant 40 ans. C'est son histoire. Et dans ce temps-là, l'Éternel va se servir de ces 40 ans pour transformer Moïse, porteur d'une vision juste pour Dieu, de tout son cœur, mais voulant l'accomplir lui-même. Pendant 40 ans, Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, sacrificateur de Madian, et le même menait le troupeau dans le désert. Pour un homme de cette qualité, de cette trempe, arriver là dans le désert, 40 ans, c'est très long. C'est très long. Et chaque jour, chaque nuit qui passait, devait emplir ses pensées et son cœur en disant « Mais est-ce que je me suis trompé sur la vision ?» L'Éternel ne me répond pas. Ça a peut-être dû passer dans son cœur en 40 ans. Il est comme nous. On aurait été comme lui. Emmener le troupeau dans le désert, chaque jour. Alors, cette tâche de berger, qui n'était pas gratifiante, il était tout seul dans le désert, il n'y avait personne. Tout seul, pendant 40 ans. Et recommencer le jour suivant, personne à qui parler dans le désert. Il était vraiment seul. Et il pouvait parler qu'à Jéthro, son beau-père, et d'ailleurs qu'il a aidé, bien sûr, pour lui descendre. Et le peuple qui n'avait pas voulu l'écouter, il n'est plus là. Et maintenant, il a dû se dire, ben, je ne sers plus à rien, je suis tout seul. 40 ans. On peut peser cette distance, mais Dieu l'avait bien voulu. Alors il doit peut-être se dire aussi, ça ce n'est pas marqué dans la Bible, j'attends la fin de ma vie, puisqu'il allait vers 80 ans, au bout du compte. Puis c'est lui qui a écrit dans le psaume 90. Il a écrit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que pauvreté et misère. » Voilà. Certainement, en tout cas, quelle était sa situation et peut-être ses pensées qui pourraient arriver à tout le monde au bout de 40 ans de désert. Et après, on arrive dans Exode 2. Cette fois, les versets 23 à 25. Longtemps après, comment je comprends ça le verset ? Longtemps après, presque 40 ans, puisque c'est là que ça va repartir. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Elle était terrible, cette servitude des enfants d'Israël, quand on lit la Bible. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Et on passe à Exode 3, versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte ». Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ». Les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hittiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alors, est-ce que Moïse qui entend cette parole de Dieu qu'il n'espérait, on peut dire presque plus, puisque, voilà. Quelle a été sa réponse? Alors, je vais vous la lire. « Enfin, Seigneur, tu me rappelles, tu as compris que je suis à la hauteur de la situation, j'y vais tout de suite, le temps que je retrouve mon épée qui a rouillé pendant 40 ans, et sois tranquille, Seigneur, tu vas voir ce que tu vas voir. » L'ancien Moïse aurait été dans cette dynamique-là, quand il y est allé, il a percé l'Égyptien avec tout... Non, bien sûr, C'est plus du doute, c'est fini tout ça. Ce Moïse qui prenait les décisions avec toute sa force. Au contraire, il est changé totalement. Et il a donc dit cette parole, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte le peuple d'Israël ?» Et au chapitre 4, au premier verset, il entend cet ordre de l'Éternel, mais Moïse répondit et dit, « Mais voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Et voilà quelle est sa réponse. Alors Dieu doit faire deux miracles pour lui montrer qu'il est vraiment Dieu et qu'il peut le croire. Il y a l'histoire de la Vierge, et puis il dit, « Mets ta main dans ton sein, il recouvre les plaines de lèpre, et puis il le guérit. » Dieu voulait montrer toute sa puissance à Moïse, que s'il l'envoyait, il pouvait le croire. Mais Moïse n'est plus le même, et au verset 10 de ce chapitre 4, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Non, il ne veut pas y aller. Il ne peut pas parler. Probablement qu'il était bègue, probablement. Et l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche, verset 12, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Le Seigneur insiste lourdement. Et puis Moïse, ben non, il n'y a rien à faire, hein. Il n'est plus du tout le même, il est par terre. Et il dit au verset 13, Moïse dit à Seigneur, envoie qui tu voudras, mais pas moi. En gros, c'est ça, sa parole. Pour un homme de cette trempe, de cette détermination et de cette force morale, on ne le reconnaît plus. C'est plus du tout le même homme. Et cette fois, nous passons de la vision qu'il avait eue et qu'il voulait accomplir à la formation que Dieu a fait chez ce grand homme. Et nous comprenons à ce moment-là combien Dieu devait l'affranchir complètement, déjà de l'Égypte, parce qu'il était baigné dans l'Égypte, il vivait dans l'Égypte, avec cet avenir absolument magnifique. Il est fort probable que le Seigneur a dû, bien qu'il ait pris la décision de servir le peuple. Et puis, il faudra absolument qu'il y ait cette séparation dans son cœur complète de tout ce qui pouvait rester de l'Égypte, et il a fallu 40 ans. Et durant ce temps, il y a eu un grand travail de discipline qui s'est fait dans le cœur de Moïse de la part de Dieu. Et on peut dire qu'il a subi un véritable dépouillement intérieur. Rappelons-nous, c'était ce qu'avait fait Joseph et tous ces hommes et ces femmes du chapitre 11. Donc cette transformation était faite entre l'ancien Moïse et le nouveau Moïse qui ne voulait pas y aller, qui voulait se cacher, qui ne voulait pas parler, mais qui était là, le début du serviteur de l'Éternel. Il est là, et pas dans le Moïse vaillant. Alors, pour être effectivement, puisque quand même ça nous concerne tout ça, Dieu veut faire de nous aussi des serviteurs pour lui, pour Jésus. Et pour qu'il puisse faire de nous des servantes et des serviteurs, il faut que, dans mon cœur le premier, peut-être certainement dans le vôtre aussi, eh bien, il faut que toute la vie du moi puisse être crucifiée. Ce sont des termes qui couvrent des réalités. Il faut que tout ce moi il puisse disparaître. Et ça va être pour Moïse ce cas, puisque ce Moïse fougueux, bouillant, impulsif, va devenir un autre Moïse. Et cet autre Moïse, il va être un Moïse calme, doux, patient. Mais avant de l'être, il a dû apprendre, par les épreuves, par la solitude, la douceur et la patience dans le désert. Et dans nos vies également, le Seigneur veut nous faire apprendre la patience. La première chose, c'est marqué dans la parole, la persévérance, puisque c'est le même mot, veut nous faire apprendre aussi la douceur. Et lorsque ces choses se font, alors Dieu peut et veut se servir de nous, ici, de nous tous. Et souvent, lorsque Dieu nous coupe de beaucoup de choses, que nous sommes enfermés dans la discipline de l'attente ou dans la douleur des épreuves, et nous en avons eu, peut-être on en aura encore, mais voyons et rassurons-nous, il nous prépare pour un meilleur service que nous n'aurions jamais pu accomplir autrement. Il a un plan pour nous. Comme pour Joseph, comme pour Moïse, on n'a pas la même dimension spirituelle, mais ça n'a pas d'importance, parce qu'on a tous notre dimension spirituelle. être le plus bas possible avec lui dans l'humilité. Or, il nous est dit dans Nombre 12 au verset 3, « Or, Moïse était un homme très doux. » Et Darby traduit « très patient ». Il y a donc les deux traductions. Hein. « Il était très doux et très patient. » Bon, l'Égyptien n'a pas dû penser pareil, hein, quand même. « Très doux, très patient. » Nombre 12, verset 3. « Plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. » Il y avait des hommes, beaucoup, dans ce temps-là. « Plus que... » Si c'est l'Éternel qui le dit, c'est qu'il l'a vu. Vous vous rendez compte ? La transformation. Et il y a une traduction en vieil anglais qui dit « plus qu'aucun homme sur la face de la terre ». Alors les deux traductions sont intéressantes, elles se complètent. Plus doux, plus patient que tous les hommes, et c'est bien précisé pour pas qu'on se trompe, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est une particularité pour cet homme qu'on n'a jamais pu entendre pour un homme. Un seul autre l'a vécu. On l'a vu avec cette belle présentation de la Sainte Cène. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le plus doux, le plus patient. Qui ne se vengeait jamais, qui ne répondait pas, qui pardonnait tout, sur la croix. Et pour Moïse, le chemin de la croix s'est fait dans ces circonstances pour arriver au résultat de ressembler à son maître. Et c'est dans nos vies aussi ce que Dieu veut faire. Ne perdons pas courage, continuons en ayant aussi, nous aussi cette vision qu'il veut faire de nous des servantes et des serviteurs. Et puis, eh bien, laissons-le, donnons-lui la possibilité de faire cette œuvre de la croix pour que le moi disparaisse. S'il vous plaît, priez pour moi, en moi le premier. Et il y a un autre homme dans le Nouveau Testament qui a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Vous savez que c'est Paul. Mais quand on regarde le dénommé Paul, quand il s'appelait Saul de Tarse, début d'acte 9, respirant la menace et le meurtre, et il tuait les chrétiens. Et il est devenu, comme Moïse, l'homme le plus doux qui existe dans son époque, et il nous invite tous à laisser le Seigneur faire cette transformation dans chacun nos cœurs. C'est un message plein d'espérance, plein de projets pour le Seigneur, pour son Église. Car je connais les projets que j'ai pensés à votre égard, ça c'est Darby, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et le meilleur des avenirs et d'espérance pour nous, c'est de devenir des servantes et des serviteurs de Dieu. Et ensuite, après cette transformation, Moïse a eu un contact permanent avec le Seigneur, on le sait, puisqu'il parlait au Seigneur. Et ce message, eh bien, il est pour nous. Laissons-le faire en nous, cette œuvre profonde de la croix. C'est lui qui la décide. Dans les épreuves par lesquelles nous passons, ayons toujours cette pensée. Dieu permet cette épreuve pour moi. Donc, il a un plan. L'épreuve, il la maîtrise. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas les médecins qui la maîtrisent, c'est Dieu. Et il veut la maîtriser pour nous amener à pouvoir recevoir cette transformation en chacun de nous. Et on va voir aussi maintenant dans Matthieu 17, les 8 premiers versets. Matthieu 17, c'est la transfiguration du Seigneur. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse découvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Le Seigneur Jésus est transfiguré et il y a 2 personnes qui sont là, Élie et Moïse. Moïse dans la gloire avec le Seigneur. Après avoir eu ce parcours terrestre où Dieu a dû le laminer pour en faire un autre homme qui ressemblait à Jésus pendant son parcours terrestre. Et alors, la Bible est vraiment bien écrite. On voit Pierre, c'est extraordinaire Pierre, l'homme de la situation. Il est là, Seigneur, on dresse 3 tentes. Il va envoyer ses copains chercher de la toile, je ne sais pas quoi. Mais c'est l'ancien Pierre. Mais quand Pierre sera passé par la repentance, quand il sera passé après aussi dans cette transformation, alors il est devenu le grand Pierre, le Pierre qui ressemblait au Seigneur et qui pouvait annoncer sa parole, il a subi la même transformation. Et on peut dire, bon ben, quand on va rencontrer le Seigneur glorifié, on va être tellement heureux, comme on l'a rappelé ce matin, et on est tellement heureux de savoir qu'on sera avec lui, qu'on sera pour l'éternité avec tous ceux qui nous ont précédés. Mais on n'aura quand même pas la stature de Moïse et d'Élie pour parler au Seigneur Jésus. Ben, le Seigneur ne joue jamais à guichet fermé. Il veut la même place pour chacun de nous. Et on peut le dire avec humilité, on ne va pas le dire avec notre orgueil, ça ne tiendrait pas debout. Il veut aussi cette transformation pour que la récompense qu'avait vue Moïse, parce qu'il est dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, elle sera aussi pour nous. Si nous voulons accepter ce chemin s'appelle la porte étroite, mais c'est le chemin de la bénédiction. Alors, ben, laissons-nous encourager, comme tous les dimanches, par tout ce que le Seigneur nous a dit ce matin, déjà dans la Sainte-Seine, qui nous a bien touchés. Et puis, ayons courage dans toutes nos épreuves. C'est le Seigneur qui est là pour un but bien précis.
Ô Seigneur, c'est vrai que nous mesurons ta grandeur. Et toi, tu dis que tu regardes au cœur. Seigneur, ce n'est pas l'apparence comme l'homme, comme nous faisons, mais c'est le cœur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, qu'en nous ayant appelés à toi, Seigneur, tu ne t'es pas trompé. Merci, Seigneur, de ta grandeur, de ta connaissance en toutes choses, de la connaissance de nos cœurs, avant même que nous le découvrions. Tu es divin, tu es souverain, tu sais toutes choses. Nous voulons te faire confiance pour notre vie sur cette terre encore, Seigneur, dans l'attente de ton retour. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur, et sois béni, Seigneur, de ta parole, de notre vie que tu veux transformer comme tu l'as fait pour Moïse et bien d'autres. Seigneur, que cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.